Donc, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Baladomnie. Comme d'habitude, on va vous parler d'un sujet en lien avec la MedFam. Aujourd'hui, on a la chance de collaborer avec un autre groupe d'intérêt que vous connaissez probablement tous, le GIMI, soit notre groupe d'intérêt en médecine interne. J'ai avec moi aujourd'hui Laurent Lecault, qui est sur le comité exécutif. Donc, allô Laurent.
Salut Myriam, merci au JMF de vous recevoir aujourd'hui avec le Baladomnie. Le JMI est présent aujourd'hui afin qu'on démystifie la différence entre la médecine familiale et la médecine interne. Pour ce faire, on a avec nous aujourd'hui Dr. Caroline Laberge, médecin de famille, et Dr. Isabelle Soucy, interniste. Donc, bonjour à vous deux et merci de vous prêter au jeu aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup de nous inviter. C'est vraiment le fun d'avoir cette conversation-là avec vous.
Donc, pour commencer, on aimerait que vous puissiez vous présenter chacune un peu dans autant votre parcours en médecine que dans la vie de tous les jours. Qui êtes-vous en tant que médecin, mais aussi en tant que personne?
Tu veux-tu commencer, Caroline?
D'accord. Donc, moi, c'est Caroline Laberge. Je suis médecin de famille. Je travaille actuellement à Québec, au GMF Universitaire Laurier, puis je fais des accouchements au CHUL. J'ai grandi à Montréal dans une famille de médecins. En fait, mes deux parents étaient chirurgiens. Et quand j'ai entamé la médecine, moi, je connaissais juste la chirurgie. Je pensais m'en aller soit en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique, qui étaient les modèles de rôle que je connaissais. Donc, ça a été vraiment un revirement de situation dans ma carrière de devenir médecin de famille. Et je suis vraiment excessivement comblée. Donc, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. J'ai fait mes études à Québec, j'ai fait ma résidence à Sherbrooke, puis après ça, j'ai travaillé en région à Chicoutimi pendant 6 ans. Ça fait maintenant 10 ans que je suis de retour à Québec. Je suis une maman aussi de 3 grandes filles maintenant. Mes enfants ont 15 ans, 13 ans et 9 ans. Donc, voilà, je suis une fille sportive en général. J'aime beaucoup faire du ski, du vélo, de la randonnée, plein de choses qu'on partage en famille. Alors, beaucoup de plaisir.
À mon tour, là, je présume.
Oui. Oh, ouais, désolé, j'allais le dire. Quand vous êtes prête, avec un souci.
Oui, moi j'ai eu un parcours un peu plus atypique. Je ne savais pas que je voulais devenir médecin. Là. Je viens d'une famille plutôt non scolarisée, là, ouvrière. À vrai dire, quand j'ai fini mon secondaire, moi j'étais une joueuse de tennis, fait que je me suis expatriée aux États-Unis pour m'entraîner là-bas. J'ai fait un bac là-bas en biologie animale. Puis c'est finalement dans le décours de ce bac-là que j'ai eu un contact avec le système hospitalier puis la santé, puis que j'ai su que je voulais devenir médecin. Moi, contrairement à Caroline, quand je suis rentrée en médecine, je voulais être pathologiste pour aucune raison. Je ne sais pas trop. Ça aurait vraiment pas fité avec ma personnalité, mais bon, tu sais, des fois, on a
C'est
des
rare
idées
qu'on
préconçues
l'entende quand même.
quand on rentre, là. Donc, je suis rentrée en médecine un petit peu plus sur le tard. Puis, j'ai eu beaucoup de questionnements que je pourrais vous partager entre la médecine familiale et la médecine interne. Mais finalement, je suis assez comblée là, de travailler en médecine interne. Je travaille dans un milieu périphérique là, à Granby. Donc, c'est plus un milieu de région où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes. C'est pas mal nous. Sinon, comme hobby, j'ai un deuxième emploi. Là, je suis potière à temps partiel, là, fait que j'ai une petite boutique avec mes pièces et tout ça, là, fait que c'est ce qui consomme le reste de mon temps entre la médecine là, et le petit commerce là, que j'ai de poterie.
C'est
Fait
super
que
intéressant, c'est énorme. Je trouve ça vraiment adorable. C'est du fun. On aime toujours ça, le savoir. Dans le fond, on n'est pas juste médecin dans la vie, là. On va aussi être
Exactement.
nos personnes à propre. Donc,
Ouais. Ça ne
c'est
définit
ça.
pas qui on est nécessairement.
Non, exactement.
Fait que, ben là, on en a un peu parlé, là, mais la question la plus évidente, c'est pourquoi vous avez choisi respectivement la médecine familiale et la médecine interne? Mettons, peut-être dans votre parcours, c'était quoi les idées que vous aviez, puis mettons, peut-être un aperçu aussi, peut-être en rétrospective, là, par rapport à votre choix. En tout cas, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas.
Non. Ben, je peux peut-être commencer. Moi, j'ai vraiment hésité entre les deux. Beaucoup parce que tu me corrigeras, Caroline, mais tu sais, s'il y a un point en particulier avec la médecine interne et la médecine femme, c'est qu'on prend vraiment le patient dans son ensemble. On veut vraiment traiter l'humain au complet, pas juste s'adresser à un cœur, un poumon, un système digestif. Puis ça, on retrouve ça autant, là, cette généralité-là, dans la médecine interne que la médecine familiale. Pour ma part, ce qui a fait pencher vraiment vers la médecine interne, j'avais pas beaucoup d'intérêt vers la pédiatrie et la psychiatrie. Je voulais vraiment plus faire de la médecine d'adulte, puis de la médecine plus hospitalière que en clinique externe. Fait que je vous dirais que c'est un des trucs qui m'a vraiment fait pencher le plus vers la médecine interne. Puis j'avais aussi envie là, de faire des soins plus aigus. Puis je savais aussi que je voulais travailler en région, donc je trouvais que ça m'ouvrait les portes là, pour faire peut-être plus une sur-spécialité en région là, si je restais en médecine interne. Fait que c'est surtout ces arguments-là là, qui ont influencé ma décision. Mais ça n'a pas été facile, j'ai appliqué dans les deux quand même. Là. C'était comme une décision de dernière minute. Là.
Ça va être ça pour plusieurs, je pense.
Oui.
Ça risque d'être ça pour moi.
Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je connais quand même plusieurs personnes qui ont fait une année en médecine interne, qui ont finalement décidé d'aller vers la médecine-femme et vice-versa. On a des fois des résidents de médecine-femme qui, après un an, font comme « ben j'aime ça, mais il me semble que j'aimerais ça pousser vraiment plus des fois. » Fait que ces gens-là se retournent vers la médecine interne après. Puis, le bagage n'est pas perdu. Là, dans un sens ou dans l'autre, là, c'est utile de toute façon. Moi, c'est vraiment ben, différent. Comme j'en ai touché un mot tantôt, ce que je connaissais de la médecine, c'était la chirurgie. Fait que tout mon préclinique et mes années, même avant de rentrer en médecine, j'avais travaillé des fois l'été avec mes parents ou fait des stages à gauche, à droite chez des amis à eux. Fait que je connaissais vraiment le volet chirurgical. Puis pendant l'externat, le dernier mois avant de faire nos choix de résidence, j'ai eu un stage à l'urgence. À l'époque où j'ai fait mon cours de médecine, on ne faisait pas de stage de médecine de famille en première année, on le faisait juste en deuxième année. Fait que ma seule exposition à la médecine de famille, ça a été ce mois-là d'urgence que j'avais fait au CHUL dans la vieille urgence, vraiment décrépit, vraiment laite. C'était pas la beauté des lieux physiques là, qui m'avait donné le goût, mais ce contact-là avec les patients, puis d'avoir tellement de plaisir à travailler, puis entre autres, le CHUL, c'est une urgence pédiatrique, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants qui venaient pour IVRS et compagnie, puis je finissais mes quarts de travail, puis j'avais même pas l'impression d'avoir travaillé, j'avais juste eu du plaisir, puis j'aimais beaucoup les soins aigus, actifs aussi, fait que c'est finalement l'urgence qui m'a amenée vers la médecine de famille. Puis après ça, j'ai découvert la médecine de famille l'année suivante quand je suis allée en stage aux Îles-de-la-Madeleine, où là j'ai découvert que finalement ceux qui faisaient de l'obstétrique, c'est ceux qui avaient les enfants dans leur clientèle, sinon les autres, en tout cas en région, il n'y avait souvent pas beaucoup d'enfants, là. Fait que ceux qui s'en occupaient, c'était ceux qui avaient suivi la grossesse, fait que ça m'a ramenée vers la périnatalité que j'avais pas vraiment aimée quand j'avais fait mon premier stage d'externat en gynéco, ça n'avait pas été un coup de cœur, mais de redécouvrir ça à travers la lunette de la continuité, puis de suivre les familles, là, tu sais, à la caméra, vous voyez toutes les photos qu'il y a sur mon mur, il y a plein de photos de bébés partout. Ça atteint beaucoup, beaucoup ma clientèle maintenant. Fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'après avoir eu un coup de cœur énorme pour l'urgence, j'ai adoré l'urgence pendant ma résidence aussi, mais j'ai eu le choix déchirant de dire est-ce que je continue puis je veux faire de l'urgence dans ma carrière ou je veux faire des accouchements, puis c'est difficilement compatible. Fait que finalement, j'ai opté pour ne pas faire d'urgence, mais c'est ça qui m'a tout de même amenée vers ma spécialité de la médecine de famille. Fait que voilà. Mais le fait de travailler... pour moi, j'aimais ça, travailler à l'hôpital beaucoup, beaucoup aussi, mais j'aime ça aussi, la continuité, puis le bureau, la flexibilité que le bureau amène aussi. Je trouvais ça vraiment le fun.
C'est vraiment le fun de voir vos deux processus décisionnels, comment ça part pas du tout de la même chose, mais au final, je pense que c'est comme ça que nous, les étudiants, on arrive à se rattacher, à se reconnaître chez quelqu'un. Là, énormément d'étudiants ont des parents médecins, énormément, comme dans mon cas, moi, mes parents ne sont pas médecins du tout. Donc, moi non plus, je n'ai pas eu de modèle en santé avant de rentrer, mais au final, c'est toujours intéressant. C'est le fun comment chaque personne a vraiment un parcours singulier qui lui est propre.
Ben oui, pour ma part, moi non plus, mes parents sont pas en médecine. Puis, ben là, je découvre ça au fur et à mesure. Mm-hmm. On est quand même rendu à la troisième année, on commence à comprendre un peu, mais en première année, mettons que je savais vraiment pas.
Ah oui, non.
ça se précise de plus en plus. Moi, c'est assez clair. Mettons, tu sais, je me reconnais un peu dans la façon que vous devez vous présenter, votre cheminement de pensée. Là, tu sais, j'aime ça, comme je me vois un peu faire de tout, puis aussi, tu sais, interagir avec des patients, mettons, dans leur ensemble. Tu sais, ça m'a quand même, quand Dr. Suzy, vous avez parlé de ça. Mais, mettons, est-ce qu'il y aurait une façon de, comme, différencier un peu, mettons, les deux? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Mm-hmm.
Mettons, parce que, tu sais, les deux font clairement comme, tu sais, il y a une interaction avec le patient quand même très importante qui est comme au premier plan, mettons, de chacune de ces deux spécialités-là. Mais en même temps, il y a des différences majeures, en tout cas, il me semble.
Oui. Qui se fait surtout en médecine familiale. Donc, en médecine familiale et en médecine interne, on fait des soins hospitaliers. Je pense que l'interniste est plus souvent à l'hôpital, sur les étages, dans les soins intensifs. Ceci dit, quand on compare avec la clinique externe, comme Caroline a dit, il y a ce soin-là longitudinal des patients à travers plusieurs années. En médecine interne, ça va vraiment être, on va être le consultant, la deuxième ligne. Donc, on va recevoir une demande de consultation pour évaluer un ou plusieurs problèmes. Puis quand cette condition-là va être stabilisée, le patient va être retourné à son médecin de famille. Donc, nous, on ne fera pas de suivi longitudinal. On stabilise une pathologie qu'on a investiguée. Puis après ça, elle est retournée là, au médecin de famille. Je ne sais pas si, qu'est-ce que tu en penses, Caroline?
Oui, je dirais ça aussi. Des fois, vous faites des suivis longitudinaux quand les gens n'ont pas de médecin de famille.
Exactement.
Des fois, ça se ramasse à faire des genres de MP au bureau de l'interniste parce qu'ils n'ont pas de médecin. Mais sinon, dans la pyramide logique des choses, les gens ont un médecin de famille puis vont voir l'interniste pour des situations plus complexes ou des problèmes ponctuels. Mais après ça, ce n'est pas très logique que l'interniste suive l'hypertension stable que le médecin de famille est capable de suivre.
Exactement.
OK, donc ça revient vraiment à chacun une vision holistique du patient et aime à le connaître plus en profondeur, si on veut, mais le médecin de famille va faire le suivi longitudinal après. Une fois que le patient est stable, comme vous dites, c'est vraiment plus de la charge du médecin de famille plutôt que l'interniste.
Exactement.
Il y a une définition qui a été émise par le Collège des médecins de famille du Canada il y a 2 ans. Sur le profil professionnel du médecin de famille, c'est disponible en ligne là, sur cmfc.ca. En fait, ça explique pas qu'est-ce que chaque médecin de famille va faire, parce que ça inclut 0-100 ans dans toutes les conditions de vie possibles, dans tous les endroits, toutes les pathologies. Fait que chaque individu n'est pas capable nécessairement d'avoir toutes les connaissances pour faire tout ça. Mais en fait, un médecin de famille, à la fin de sa résidence, est un peu comme une cellule pluripotente, puis là, va choisir un peu dans quel type de milieu il va aller travailler, puis selon le milieu, bien, ça va complètement changer la pratique. Là. Tu sais, j'ai des amis à moi qui travaillent dans le Grand Nord. Là. Je serais plus capable, je serais incapable de faire leur travail en ce moment. Je n'ai jamais travaillé dans un setup comme ça. Je ne me vois pas drainer des abcès loin de tout. Tu sais, moi, je travaille dans un centre tertiaire, dans un centre universitaire. On n'est pas du tout dans ce même type de pratique-là. Mais on peut faire un peu de tout. Puis ce qui est une des différences aussi, je dirais, c'est le suivi 0-100 ans, c'est-à-dire les enfants aussi. La psychiatrie aussi, Isabelle en a parlé tout à l'heure. Dans le fond, dans les types de choses qu'on peut faire aussi, si vous aimez les techniques, la chirurgie mineure ou l'assistance opératoire, ça va être plutôt en médecine de famille, en médecine interne, détrompe-moi, mais des fois des infiltrations, ça dépend des techniques d'endoscopie, parfois dans certains milieux. Je sais qu'en région, j'avais connu certains cardiologues là, qui faisaient les gastroscopies parce qu'il n'y avait pas de gastroentérologue dans la ville où ils travaillaient. Fait que vous, oui, c'est la pluripotente de la méde interne, finalement. Là.
Oui, c'est ça. Puis effectivement, quand on est en région, là, on peut faire beaucoup plus de techniques là, selon notre dada, là, incluant les échographies cardiaques, les colonoscopies, gastroscopies, bronchoscopies, les infiltrations, comme tu disais. On devient un peu plus, on étire notre champ d'expertise. Puis comme tu dis, tu sais, si on travaille en centre tertiaire ou en région, c'est une pratique complètement différente. Moi, je ne ferais pas la pratique de mes collègues en centre tertiaire. Je suis comme tellement rendue habituée dans ma pratique en périphérie, puis c'est tellement différent qu'on devient habitué dans ce qu'on fait au quotidien. Là.
Puis justement, là, on parle de région.
j'en comprends les deux, vous avez travaillé un peu plus en région, le corps souci à Granby, le corps à Verge, à Chicoutimi, il y a quelques années. Puis, quand on compare en région, là, est-ce qu'il y a une façon que les deux se distinguent un peu plus? J'ai souvent entendu des amis qui avaient fait des Saros ou quoi que ce soit, puis qui voyaient un peu moins la distinction quand on est en région, évidemment avec les ressources un peu plus limitées par moment et tout ça, j'imagine qu'on vient travailler de plus en plus en collaboration, tout type de spécialités confondues.
Ouais, c'est sûr que le centre tertiaire, là, pis je pense que ça c'est bon aussi pour la médecine familiale, ça, là, le centre tertiaire, c'est un centre d'enseignement, c'est un endroit de recherche. C'est où est-ce qu'on retrouve tous les étudiants qui sont formés pour devenir des futurs médecins. Fait que c'est sûr que les qu'on soit en médecine familiale ou en médecine interne, on va travailler avec cette équipe-là qui va du jeune étudiant à l'externe au résident 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est sûr que ça, c'est le centre tertiaire. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour optimiser l'enseignement, favoriser la recherche. Puis, en centre tertiaire, il y a beaucoup de spécialistes, de sur-spécialistes. Ce qui fait que l'interniste fait souvent office de chef d'orchestre. Je trouve, dans un centre tertiaire, ça va être lui à la tête du problème complexe, mais il va dispatcher en sur-spécialité. Tandis qu'en région, ben, il n'y a personne. J'ai déjà travaillé aussi un peu aux Îles-de-la-Madeleine, puis on se retrouve souvent tout seul avec quelques collègues, un étudiant, un résident, s'il y a lieu. Puis là, il faut vraiment tirer l'élastique de nos connaissances, se retrouver dans des zones des fois un peu inconfortables. Là, quand tu parlais de tes collègues médecins de famille dans le Nord, là, des fois, il y a des affaires, tu ne te souviens même plus la dernière fois que tu l'as fait, mais la région, c'est un peu ça. Il faut sortir de cette zone-là. Mais c'est vraiment moins de l'enseignement là, en région. Puis on est plus, moi je trouve qu'en région, je vois plus souvent le patient one-on-one, moi et lui ensemble, versus en centre tertiaire, où est-ce qu'il y a toute cette lignée-là de résidents. Souvent le patron est au bout puis supervise un peu le tout. Fait que pour moi, c'est un peu les différences des deux. Là. Évidemment, vous avez deviné que je suis vendue à la région.
La couverture dans le même sens que toi, en fait, parce que ça fait 10 ans que je suis à Québec, puis j'ai encore un peu en trouble d'adaptation de mon ennui de la région. Là.
C'est tellement fun!
Oui, vraiment, pour les raisons que tu viens d'énumérer là. Puis l'autre chose aussi par rapport à la première ligne, c'est que souvent les soins en région sont comme mieux organisés. On parlait un petit peu de pyramide tantôt de soins, mais tu sais, c'est pas nécessairement qu'il y a beaucoup plus de médecins par capita là, dans une région, mais la majorité des gens, ou plus de gens, ont un médecin de famille. Puis là, il y a quelques spécialistes qui vont être en support, mais après ça, ça revient au médecin de famille. En ville, il y a des patients que je suis, que c'est super important pour eux que leur hypertension soit suivie par le grand cardiologue de l'hôpital à côté. T'sais. Puis je trouve ça tellement nono, une mauvaise utilisation des soins, mais comme tu sais, on dirait que ça les valorise là, d'avoir leur gynécologue, leur cardiologue, leur dermatologue pour la petite gaga sur le bord de la peau. Chose qu'on n'a pas en région, là, il y avait un dermatologue pour tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est sûr qu'il gérait les cas d'affaires bébés graves, mais pour les petites gogosses, il y avait des médecins de famille qui travaillaient avec lui et qui avaient développé une expertise en dermato. Puis c'était ça pour plein de choses. Puis les gens se connaissent plus aussi, le fait d'être dans un petit milieu. Ça change tellement la dynamique, c'est tellement le fun. On se croise à l'hôpital, on se connaît, on mange ensemble. Souvent, le social allait avec ça aussi. Là, je ne sais pas comment tu trouves ça, Granby, mais au Saguenay ou aux Îles, quand j'étais là aussi en stage, beaucoup des médecins nécessairement dans l'équipe n'ont pas forcément leur famille sur place. Fait que le réseau social se crée beaucoup entre amis de l'hôpital, que ce soit entre médecins ou avec les autres professionnels aussi. Fait qu'on se crée comme ça un réseau hors hôpital aussi. On allait faire du camping ensemble, on allait faire de la rando dans les Mont-Valin. Fait que ça crée une dynamique vraiment le fun. Après ça, on se retrouve à l'hôpital, tu sais. Il n'y a pas de docteur bashing quand tu te connais dans la vie. Là. Mais quand c'est gros et que c'est impersonnel, puis que justement, tu sais, il y a des externes, des résidents partout, c'est super difficile de se parler de collègue à collègue. Ça passe par faire les messages par quelqu'un d'autre. C'est plus difficile. Puis je trouve que ça reste très impersonnel. Là. Ça fait 10 ans que je travaille au CHUL, puis tu sais, je connais les obstétriciens avec qui je travaille très étroitement depuis 10 ans. Mais je connais à peu près la moitié des néonatologistes, la moitié des anesthésistes, puis pas vraiment le monde de l'urgence. Puis les internistes, il y en a deux que je connais parce qu'ils font les soins obstétricaux, mais sinon, les autres, on se connaît pas vraiment. Fait que, tu sais, ça manque vraiment. Moi, je suis vraiment une fille, même si j'ai grandi à Montréal, mais je suis une fille de petite place. Là, j'aime ça connaître les gens, j'aime ça connaître ma clientèle, j'aime ça connaître mes collègues. Puis ça, je trouve ça difficile dans un centre universitaire. C'est moins... small is beautiful.
Puis c'est vrai ça donne un goût d'aller en région.
Oui, mais en plus, c'est vrai que tu as raison qu'avec la proximité, tu sais, moi, c'est pas rare, j'ai un de mes collègues qui m'appelle « Hey, salut Isa, j'ai une petite question pour toi. » On dirait qu'à cause de cette proximité-là, tout se règle plus facilement, tu sais, mais... C'est différent, là, c'est super en centre tertiaire aussi. Il y a plein d'avantages, je pense, dans les deux milieux. Mais c'est vrai que quand c'est plus petit, on dirait que tout se règle mieux, tout le monde est de bonne humeur. Il y a vraiment cette proximité-là.
Il y a vraiment l'ambiance de petite ville aussi. Là, le ça n'est pas bien différent d'où on est au final, quand on vient d'un petit milieu. Moi, je ne viens pas de petite région, là, mais... Même en banlieue de Montréal, ça tourne autour qu'on se connaît. On connaît beaucoup, beaucoup de gens. On arrive au cégep, tu reconnais quand même beaucoup de gens. Fait que, il y a cette familiarité-là. Comme vous dites que pour certains, ça va être plus confortable, comme pour d'autres, c'est trop proche. On aime avoir un peu plus d'intimité.
Oui, exactement.
J'ai une question. Tu sais, je ne sais pas si c'est une fausse conception de ma part ou en tout cas des mauvaises rumeurs, mais j'avais l'impression qu'en région, tu sais, vu qu'il y a un peu moins de médecins, c'est peut-être plus... Tu sais, les gardes sont plus demandantes. Je ne sais pas, comme l'équilibre de vie peut parfois être plus dur, tandis que, mettons, justement, dans un centre tertiaire, il y a tellement d'échelons, mettons, avant le patron, que si ça se rend au patron, parce que c'est rare que ça va se rendre jusqu'au patron, mettons, quand, mettons, il y a des gardes. Je ne sais pas. Puis, mettons, les gardes, mettons, j'avais entendu dire qu'en région, il était comme plus, il y en avait plus, mettons. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer.
c'est pas tout à fait vrai, dans le sens que quand on est en région, les médecins de famille, les urgentologues, ils sont capables de faire tellement que quand on se fait appeler, c'est pour une réelle urgence. Tu sais, moi, je fais des soins intensifs ici à Granby. Quand on m'appelle la nuit, le patient est intubé et va mal. Tu sais, sinon, l'urgentologue va l'avoir géré de A à Z. Versus dans un centre tertiaire, j'ai une de mes meilleures amies qui est interniste dans un centre tertiaire, bien, la nuit... Ils peuvent recevoir des consultations pour des petits problèmes qui, normalement, nous, on ne les recevrait pas la nuit, ça irait au lendemain, mais eux vont les recevoir parce que, justement, ben, il y a le R1, il y a le R2, puis là, il y a toute cette hiérarchie-là. Fait que, puis le patron, le lendemain matin, ben, il les réveille. Puis, mais nous, ces consultations-là, on ne les aura jamais parce que les médecins de famille puis les urgentologues de région, c'est des beasts, là. Tu sais, ils font tout, là. Quand il m'appelle, c'est que ça va vraiment mal. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Caroline. Fait que je trouve que la garde s'équilibre quand même. C'est vrai que des fois, elle va revenir un petit peu plus souvent parce qu'on est moins de monde, mais je ne trouve pas qu'elle est plus drainante qu'une autre garde. Puis ceci dit, moi, faire des gardes, j'aime ça. C'est là, tu sais, tu arrives la nuit à l'hôpital, c'est excitant. T'sais. Des fois, il ne se passe rien, mais... Ça reste que faire une garde, je trouve que c'est quand même quelque chose de le fun, mais c'est vrai qu'en manque de sommeil, c'est plus drainant, mais je trouve que ça s'équivaut d'un centre.
Oui, je pense que je partage ton opinion. Puis, tu sais, par exemple, je faisais des accouchements à Chicoutimi, j'en fais encore à Québec. Bien, à toute la nuit, si on avait une suspicion de perte de liquide, là, les infirmières, ils allaient garder la patiente à l'hôpital, puis on allait la voir au matin. Là, je ne me déplaçais jamais la nuit pour faire un fern quand on dormait chez nous. Là, à Québec, ben justement, il y a un résident qui est allé lire le fern, puis il n'est pas sûr. Puis là, il faut que je me relève et que j'aille lire le fern avec lui pour être bien sûr, tu sais. Mon Dieu, c'est donc bien grave, c'est une perte de liquide, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaires, on se faisait jamais appeler pour des Tylenol ou de l'Ativan le soir quand je faisais de l'hospit à Chicoutimi, mais quand on est avec des... quand on est en centre tertiaire puis que les infirmières sont habituées de s'appuyer sur des externes, des résidents, du monde qui est là tout le temps, bien, ça rend le personnel infirmier aussi moins autonome un peu. Fait qu'on a plus d'appels quasiment. Je pense que c'est similaire. Puis comme dit Isabelle, si on choisit une spécialité qu'on aime puis qu'on aime ça faire des gardes, mais ça ne nous dérange pas d'y aller. Il y a toujours un certain seuil critique. T'sais, moi, dans le temps que j'étais à Chicout, on faisait de l'hospice aussi puis on couvrait nos soins quand ce n'était pas encore fermé dans ce temps-là. Puis il y avait juste un intensiviste qui était là tout le temps. Quand il était là, il était là. Puis quand il était en vacances, ben il n'était pas là. Puis on était couvert par l'enfant Jésus. Il fallait qu'on appelle à Québec si ça n'allait pas. Fait que c'était drôle parce que les téléphonistes le savaient s'il était là ou pas. Là, quand on l'appelait, oh non, je l'ai vu passer tantôt, il est sorti. Bon, c'est correct, on ne le dérangera pas pour ça. Mais tu sais, on essayait de l'épargner quand même. On ne le faisait pas venir à toutes les nuits. Puis si ça dégénérait, bien, souvent on se baquait justement avec les urgentologues. T'sais, moi, je ne mettais pas de voix centrale, mais mes urgentos pouvaient venir en poser si besoin ou les anesthésistes. Fait que tu sais, il y a comme certaines spécialités, peut-être avec un seuil critique, je ne sais pas trop pour la médecine interne, mais tu sais, par exemple, s'il y avait juste deux gynécologues dans une région et de garde une semaine sur deux tout le temps avec des césariennes jour et nuit tout le temps, ça peut être pas vivable, mais le nombre de gardes puis leur fréquence n'est pas nécessairement un bon corollaire de à quel point c'est occupé puis que c'est drainant cette garde-là.
Mais c'est intéressant parce que les gardes, ça revient souvent quand même à un enjeu décisionnel, je pense, pour les étudiants, pour certains, en tout cas, de choisir une spécialité versus une autre. Mais sinon, comment vous voyez-vous les avantages et les défis de chacune des pratiques? C'est sûr, en ville versus en région, ce ne sera pas les mêmes types de défis, les mêmes types d'avantages, mais je ne sais pas si chacune, vous en avez comme un qui vient plus instinctivement en tête.
Bien, moi, je pourrais peut-être dire un petit mot sur la continuité. Tu sais, c'est quelque chose qui est excessivement gratifiant puis qui est le fun. Puis que, en ayant pratiqué 6 ans à Chicoutimi, quand je suis partie, j'ai comme pleuré à tous mes patients quand j'annonçais que je déménageais. Là, je trouvais ça vraiment, vraiment difficile de quitter ma clientèle. Puis il y a d'ailleurs quand même un certain pourcentage de ma clientèle qui m'a suivie à Québec, soit qu'ils sont déménagés eux aussi par hasard ou que je continue d'être leur médecin à distance depuis 10 ans. Mais j'ai encore quelques familles que je suis comme ça à distance. Fait que cette continuité-là est vraiment le fun, mais il y a le contrepoids de ça qui est que quand on inscrit des patients, quand on fait du bureau, de la continuité, ben c'est comme à la vie, à la mort. Là. Nos patients, moi, ma clientèle, ils ne meurent pas vraiment, ils sont majoritairement jeunes. Fait que cette clientèle-là fait juste grossir. Quand on se fait dire par le gouvernement qu'on ne suit pas assez de monde, qu'il faudrait en suivre plus, c'est comme si les gens ne réalisent pas que inscrire un patient, ça veut dire tu t'en occupes, peu importe sa raison de santé, peu importe c'est quoi son problème, il va venir vers son médecin de famille en premier lieu, que ce soit pour des raisons physiques, psychologiques, conjugales, travail, peu importe. Puis des fois, ça peut devenir lourd ou, tu sais, ben, il y a certains patients, définitivement, que quand on voit le nom dans l'heure, on fait comme oh là là, OK. Mais c'est vraiment un petit pourcentage de patients que c'est lourd à suivre, mais ça vient quand même avec un certain, une grosse responsabilité de suivi. T'sais, on ne peut pas facilement partir 3 mois en voyage. Il faut avoir des bons collègues qui nous back, qui assurent le suivi de notre clientèle pendant ce temps-là. On le fait pour les congés de maternité et tout ça, mais ça oblige à une certaine régularité dans la présence au bureau. Fait que ça, c'est pour ceux qui font du suivi longitudinal, ce qui devrait être quand même la majorité des médecins de famille. Des gens qui travaillent exclusivement à l'hôpital ou à l'urgence, tout ça, il y en a un petit pourcentage, mais c'est pas... Si vous souhaitez jamais, jamais faire du bureau, bien peut-être que la médecine de famille, c'est pas un bon choix, là, parce que c'est quand même une bonne part de notre suivi. Fait que ça, c'est, je vous dirais, c'est peut-être le côté à réfléchir comme il faut. Tu sais, ça l'a tellement de beaux avantages de la continuité, mais c'est quand même une responsabilité envers la cohorte de patients qu'on suit. Si on déménage ou si on meurt ou qu'on réoriente complètement notre pratique. Mais autrement que ça, on peut pas mettre le fin vraiment à un suivi avec nos clients.
C'est ça, c'est drôle parce que j'avais jamais pensé à l'envers de la médaille. En fait, moi, c'est tellement un des facteurs principaux pourquoi j'aime la médecine familiale puis que je suis à peu près certaine à 100% que c'est là que je me dirige. C'est le suivi longitudinal, puis je l'ai dit depuis que je suis en première année, mais c'est quand même intéressant à réfléchir, puis c'est bon d'y penser. C'est à bien y penser quand même
C'est ça. C'est ce que j'en pense.
Tu vois, moi, pour la médecine interne, c'est un peu j'ai beaucoup hésité entre les deux, mais je me sentais plus en sécurité d'être un médecin de deuxième ligne. Comme Caroline, elle dit, en médecine familiale, faire le suivi longitudinal, les patients peuvent arriver avec de nombreuses plaintes. Puis c'est comme de déterminer dans toutes ces plaintes-là, lesquelles qui pourraient être dangereuses pour le patient versus des trucs un peu moins importants qu'on peut passer au prochain rendez-vous. Moi, ça m'insécurisait. Je me disais, oh mon Dieu, il faut que je débroussaille avec tout ça. Tandis qu'en étant en spécialité en médecine interne, en étant à la deuxième ligne, je reçois une question précise, je prends en charge ce problème-là aigu, puis après ça, je le renvoie à son médecin. Puis moi, ça correspondait vraiment avec ma personnalité, tu sais. C'est quand même une pratique générale, mais je vais connecter avec le patient à quelques rencontres, on va régler ça. Des fois, on fait certains suivis pour des maladies plus complexes, là, d'ordre rhumatologique ou des problèmes cardiaques plus complexes à suivre. Fait que j'ai quelques suivis longitudinales, mais j'aimais beaucoup la partie de « c'est un bloc, tu règles un problème », qui peut être d'ordre général quand même. Puis après ça, il est redirigé vers son médecin de famille. Fait que c'est vraiment l'opposé, mais effectivement, comme Caroline a dit en médecine familiale, tu sais, c'est à vie, là. C'est, je veux dire, la vie du patient, là, tu sais, à moins qu'il soit très jeune. Tu sais, c'est un suivi sur le long cours, là. Fait que c'est un peu différent.
Il doit avoir quand même quelque chose, mettons, par rapport à la médecine interne, ça doit comme être valorisant, tu sais, d'arriver comme dans un soin aigu, puis de pouvoir, comme, tu sais, guérir, de toute façon, tu sais, guérir le patient, mettons.
Oui, bien, quand on dit aigu, tu sais, des fois, c'est une hypertension complètement débalancée sur 6 médicaments. Fait que, tu sais, le patient, il arrive, tu sais, on n'est pas aux soins intensifs. Moi aussi, j'en fais du bureau, puis c'est super le fun de faire du bureau, là. Ça fait du bien, là, tu sais, de juste prendre le temps avec les patients puis de pas avoir de catastrophe ou d'urgence comme pour moi aux soins intensifs ou en obstétrique pour toi, Caroline, là. Tu sais, ça fait vraiment du bien de s'asseoir au bureau. Mais oui, c'est valorisant, tu sais, de voir un patient, de le suivre, puis de voir qu'on répond à un besoin, puis qu'on réussit à l'aider, là. C'est sûr que c'est une des raisons pourquoi on est en médecine, là. Tu sais, on aime ça réfléchir, penser, essayer de comprendre, creuser la question, essayer de voir comment on peut résoudre le problème. En médecine interne, c'est quand même intellectuel, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est super gratifiant quand on réussit à trouver. Là, des fois, il y a toujours les petites maladies rares que tu penses que tu verras jamais. Fait que là, quand t'en vois une, t'es tout énervé puis ça fait ton mois, là, tu sais. T'as l'impression que la vie est magnifique. Fait que ça, c'est quand même le fun, tu sais. Mais fait que oui, c'est super gratifiant, là, tu sais.
Mais en même temps, est-ce que des fois, il y a comme, vous avez un certain... pas regret, ça serait comme gros comme mot, mais comme vous aimeriez ça, faire un suivi peut-être un peu plus long terme avec certains patients, mettons, tu sais, que vous avez peut-être, tu sais, au fil des, mettons, des suivis, mettons, tu sais, 3-4 suivis, mettons, vous avez développé comme...
Ouais.
Pas un sentiment non. D'attachement, ça serait gros comme, à dire, ouais. Mais tu sais, comme... En tout cas,
ben,
vous l'avez vu développer...
On s'attache vraiment à nos patients. Moi, je fais de la bronchoscopie, fait que je fais des investigations de cancer du poumon, puis je les suis après pour le 5 ans qui ont besoin du suivi post-chirurgie de cancer du poumon. Puis on s'attache vraiment, les patients sont sweet, là. Mais moi, j'aime vraiment ça faire un bloc. Tu sais, je le vois, puis c'est vrai, des fois, on est triste, on se dit au revoir, puis on joke, on espère qu'on se reverra pas, sinon ça veut dire qu'ils sont encore malades, mais... On dirait que ça a toujours été une façon que j'aimais de fonctionner pour moi. Mais c'est propre à chacun, là. Ça doit être super trippant de suivre une famille de A à Z, là. T'sais, les enfants qui deviennent adultes, t'sais, ça doit être extraordinaire aussi. Fait que je pense que c'est vraiment d'y aller avec comment on est, nous, puis comment on se sent. Parce que les deux, il va y avoir de la clinique externe avec un suivi. Mais d'une longueur différente, là.
Quand même un argument que j'entends souvent, la première ligne versus la deuxième ligne,
mm-hmm.
Et c'est plus sécurisant pour certains, même il y en a qui me disent, ben être dans une spécialité comme peut-être plus comme la pédiatrie ou quoi que ce soit, mais je trouve ça sécurisant d'être spécialisé dans un truc plutôt que se dire, j'ai entendu souvent en médecine familiale, on dit on est bon en tout, excellent en rien. Il y en a qui trouvent ça plus difficile comme réalité, donc c'est vrai. Encore une fois, c'est toutes des choses qui aident à faire avancer nos choix un peu plus alors qu'on s'approche plus à peu de notre externat dans le cas de Laurent et moi.
Je voulais juste ajouter un truc parce que sur le suivi, la continuité, ça a pu sembler quand même rébarbatif. Là. Je ne voudrais pas que les gens gardent en tête mon Dieu, c'est un cauchemar de faire.
C'est ça. On veut quand même que ça a l'air de faire.
C'est ça. Ce que je trouve, là, puis tu sais, pour avoir vécu avec deux cohortes de patients différents là, en début de pratique au Saguenay, puis après ça à Québec, il y a comme un sweet spot souvent après 3-4 ans avec notre clientèle que là, on se connaît vraiment bien. Puis les anxieux, on a réussi à établir un bon lien de confiance avec eux. Puis là, ils nous font confiance, puis on est capable de rassurer leur anxiété sans toujours faire des tests de plus. Puis qu'on est capable d'avoir développé un peu notre façon de faire avec les patients. Fait que même les patients qu'on trouve difficiles au début ou ceux, bien, les anxieux, d'eux, il y en a dans la société. Il va en avoir dans notre clientèle. Mais à partir du moment où le lien de confiance est bien établi, ça devient vraiment plus le fun. Là. Puis je vous dirais qu'après 3-4 ans, là, j'ai trouvé les deux fois là, qu'après 3-4 ans, là, ça roule. Là, je suis dans mes pantoufles. Puis tu sais, je prends encore des nouveaux patients. Il y en a toujours des nouveaux qui s'ajoutent à ça. Mais comme le gros de la clientèle, puis ce qui est un peu dommage, c'est que pendant la résidence de 2 ans, les résidents, ils font du suivi longitudinal de leur propre cohorte de patients, sauf qu'ils ne vont pas nécessairement. Avec certains patients, ils vont développer un excellent lien de confiance. Puis entre autres, par exemple, les femmes enceintes, on les voit beaucoup, beaucoup dans 9 mois. Fait que ça, on développe quelque chose de très fort avec eux. Mais pour quelqu'un qui fait, par exemple, de l'hypertension ou du diabète, ils vont le voir 2, 3, peut-être 4 fois pendant leur résidence. C'est pas aussi facile à établir le lien dès le départ. Puis il y a une petite, des fois, surreprésentation des patients avec des problèmes psychiatriques dans la cohorte de patients des résidents. Fait que le bureau, pendant la résidence, c'est par le fun pour apprendre plein de choses, mais le vrai plaisir du bureau, je trouve qu'il vient après 3-4 ans de continuité, puis là, c'est vraiment le fun. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai presque 1000 patients, là, des patients que je suis pas trop contente de voir leur horaire, leur nom dans mon horaire, je pense que j'en ai 2, là, tu sais, fait que pour de vrai, c'est pas très fréquent, mais c'est ça, puis c'est vraiment la connaissance au long cours et le lien de confiance qui s'installe, qui rend ça plaisant, puis qui fait qu'après ça, on est capable de les faire cheminer puis d'améliorer leur santé, là, autant avec les soins qu'on leur fait, mais juste notre présence dans leur vie, c'est super important aussi. Là.
Bien, c'est encourageant parce que c'est un commentaire qui revient souvent là, quand on demande aux étudiants autour de nous pourquoi la médecine familiale, ça t'intéresse moins, puis ils me disent « Ah, ben le bureau, c'est pas pour moi. T'sais, c'est trop routinier, c'est trop ci, mais on ne sait pas exactement c'est quoi le bureau. » Fait que c'est quand même encourageant d'entendre une nouvelle perspective puis faire une nouvelle idée.
Mais ce qui est super intéressant, c'est que le bureau, peu importe ce que vous choisissez, il y aura du bureau presque toujours, là, même que ce soit la médecine familiale, la médecine interne ou une sous-spécialité, il y a presque toujours du bureau. Puis, tu sais, quand on commence, on veut être dans l'action, puis... Mais tu sais, après, quand on veut concilier le reste de la vie, ben c'est pas viable d'être toujours dans l'action puis de pas avoir de contrôle sur notre horaire. Puis tandis que quand on fait du bureau, mais ça donne un peu ce contrôle-là puis de jumeler notre vie puis notre boulot. Fait que c'est quand même agréable à avoir malgré tout, là.
Ah ben c'est ça, mais dans le fond, on va faire du pouce sur ce que vous venez de dire. Si on s'est demandé, dans le fond, est-ce que c'est facile justement de concilier, mettons, travail, famille, travail, loisirs? En plus, dans votre cas, vous avez parlé que vous étiez pas tiède. J'espère que j'utilise le bon mot.
Ouais,
et après, c'est ça. Puis, est-ce que, mettons, par rapport à ça, y a-t-il, mettons, une des deux spécialités qui est avantageuse, mettons, si on veut concilier, mettons, une vie plus, une vie familiale? En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Mm-hmm. Veux-tu commencer, Isabelle?
Ah, je peux bien. C'est quand même un défi de taille, je pense, concilier les deux. Ça prend de l'organisation. Mais ça prend aussi de se donner le droit. Tu sais, souvent, on dit toujours oui à tout là, parce qu'on est un peu des overachievers là, en médecine. Là. Tu sais, c'est ce qui nous caractérise tous. Et tu sais, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à s'occuper de soi parce que personne ne va le faire pour nous non plus, sans se sentir coupable. Fait que je pense que oui, c'est un défi de taille parce qu'au-delà de la médecine, là, ce qu'on ne voit pas pendant notre formation, c'est tout le côté administratif aussi qu'il faut gérer. Puis, ça rend les journées assez chargées. Mais je trouve surtout au début de la pratique, c'est plus difficile. Mais tu sais, après quelques années, on pogne le beat puis on trouve qu'on est plus habitué à notre horaire, comment organiser nos choses. C'est sûr que quand c'est ta semaine de garde, ben ta vie, ça va être un peu boiteux. Mais après ça, tu vas être capable d'aller au sport puis de faire tes activités. Fait que je pense que ça sera jamais parfait comme quelqu'un qui travaille de 8 à 4. Là. Je veux dire, en médecine, on n'aura jamais vraiment cet horaire-là. Mais je pense que c'est faisable dans les deux. C'est difficile dans les deux, mais je pense que c'est faisable. C'est juste qu'il faut être bien organisé avec un agenda. Là.
Je suis d'accord avec toi. Puis au-delà de l'organisation, c'est aussi de décider que c'est ça. T'sais, de décider qu'est-ce qu'on veut placer d'autre dans l'horaire. Puis l'analogie de placer en premier les gros cailloux, puis après ça, les petits cailloux, ouais. Puis après ça, le sable. T'sais. On peut facilement se laisser complètement prendre par la clinique, puis on pourrait tous travailler 24 heures sur 24, 365 jours par année, puis on sauverait encore pas tout le monde. Là. On peut y laisser notre peau si on ne fait pas attention. Alors, c'est très important de choisir, de faire le choix de mettre des limites, puis de faire des choses qui nous plaisent. T'sais, je pense qu'on a un travail qui est excessivement valorisant, gratifiant, on peut retrouver beaucoup de plaisir si on devient trop fatigué puis qu'on n'a plus de plaisir, bien, ça va occuper quand même beaucoup d'heures dans la semaine. Fait qu'aussi bien qu'on y trouve du plaisir quand on est au travail aussi, puis de effectivement bien s'organiser pour autour aussi. Tu sais, moi, quand mes enfants étaient petits, on a eu une gardienne à la maison pendant plusieurs années. Fait que je ne courais pas la garderie. Là, tu sais. Oui, le bureau, on a un certain contrôle, mais s'il y a un patient qui pleure dans mon bureau, je ne peux pas comme, bon, ben voilà, votre 15 minutes est écoulée, tu sais, alors on va. Souvent, moi, j'ai tendance à étirer mon temps au bureau un peu plus, mais juste de ne pas avoir le stress de la garderie qui ferme à 5 heures ou de préparer le souper avec des enfants qui pleurent parce qu'ils ont faim, tu sais, de s'enlever des irritants comme ça. Le fait pour nous d'avoir une gardienne à la maison, que un, les enfants n'étaient jamais malades puisqu'ils n'étaient pas vraiment en contact avec d'autres enfants. Et le souper était prêt, puis le lavage était fait. Fait que quand je revenais de travailler, à peu importe l'heure que je revenais, je pouvais juste jouer avec mes enfants puis manger le repas qui était prêt. T'sais. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment important pour nous quand les enfants étaient petits. Puis c'est ce que j'encourage à mes résidents ou ceux qui ont des enfants, c'est comme trouve-toi de l'aide, là, parce que c'est pas vrai que c'est le fun de courir pour une garderie là, quand t'es avec... peu importe qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est jamais un bon moment pour partir pressé. Puis les loisirs et tout ça, tu sais, je suis un médecin qui n'aime pas beaucoup ça, prescrire des pilules puis des investigations. J'aime beaucoup ça, prescrire du temps dans la nature, prescrire de l'exercice physique, de l'alimentation, de la méditation. Fait que je le fais en application, je le montre à mes patients comment faire. Je marche pour venir au travail, je fais toutes sortes de sports, plein de sortes de sports en famille aussi, depuis que nos enfants sont jeunes, sont impliqués dans plein de choses familiales. Là. Il n'y a pas beaucoup de sports d'équipe qui impliqueraient qu'on fait des voyagements à la fin de semaine pour aller à l'aréna. Là. On avait mis un petit moratoire là-dessus quand les enfants étaient petits. Fait que, je pense que c'est des choix qu'on fait comme personne et comme famille pour que ça soit le fun. Puis, tu sais, mes enfants, ils savent que je travaille fort, mais quand je reviens travailler, je suis super heureuse de ma journée. Je suis contente. Des fois, je leur raconte que je viens d'accoucher une petite Mathilde qui est née ce matin de bonne heure. Puis, tu sais, ils voient comment j'aime mon boulot. Fait qu'il n'y a personne qui me dit comme, oh my God, je ne ferais jamais ça, je travaille bien trop. Tu sais, j'ai du plaisir à le faire. Fait que ça, je pense que ça fait partie de l'équilibre aussi, puis du fait qu'on peut concilier ça ensemble.
Ouais, c'est ça revient vraiment à mettre nos propres limites aussi à un moment donné. On a le droit de se le permettre. Là, on l'oublie un peu des fois quand on est dans toute notre ambition carriériste, quand on est jeune résident, quand on débute notre carrière, j'imagine énormément, mais il faut penser à nous aussi. C'est important. Sinon, on ne peut pas vraiment aider les autres, c'est clair. Mm-hmm.
Je pense même que, mettons, en tout cas dans les discours, mettons, avec des étudiants autour de moi, c'est quelque chose qui est vraiment peu pris en compte, en tout cas, du moins au préclinique en ce moment, moi, ce que j'observe. C'est spécial parce que, tu sais, je pense que la plupart d'entre nous, on se voit quand même avoir des vies équilibrées. Mais la chose, mettons, qui stimule tous les étudiants, c'est spécial, mais tu sais, c'est vraiment comme la carrière, en tout cas. Fait que, mais je trouve ça spécial. Puis qu'est-ce que j'retiens vraiment de ce que vous nous avez dit, c'est comme que, mettons, de bien s'entourer, tu sais, mettons, bien s'entourer, puis de comme, tu sais, on peut sortir, mettons, du cadre, tu sais, de comme, mettons, de, je sais pas, 7 à 7 ou en tout cas peu importe là, mais puis que c'est viable, puis que c'est en tout cas, ben c'est en tout cas, puis je vais vous dire que c'est en tout cas, ça me rend heureux un peu d'entendre ça là, parce que je me rends compte que c'est possible. Ouais, dis-moi, c'est ça le mot que je cherchais.
Ouais, puis excuse-moi, Caroline, vas-y.
Pardon. Si on le fait pas, tu sais, il y a personne qui va le faire à notre place là, puis tu sais, c'est facile de dire j'ai pas le temps de faire ça, mais t'sais, si tu n'as pas le temps de marcher ou de faire du sport quelques fois par semaine, mais comment tu peux dire à tes patients que c'est important de le faire si tu ne le fais pas toi-même? Comment tu peux être un modèle que tu manges toujours sur le coin de la table et n'importe quoi? Il faut que tu puisses cuisiner, il faut que tu puisses profiter. Il faut qu'on puisse avoir une bonne vie comme on enseigne à nos patients de faire les bonnes habitudes de vie. Ça passe par nous aussi. Puis c'est beaucoup plus crédible auprès de nos patients quand on leur recommande ça en disant, ben, si j'ai un patient qui commence à faire de l'hypertension, je vais essayer de l'aider à modifier ses habitudes de vie. Puis bon, ben, à quoi ça pourrait ressembler dans votre vie? Comment on pourrait faire pour augmenter l'exercice? Ben, par exemple, moi, depuis 2 ans, j'ai arrêté de prendre ma passe de stationnement. J'habite à 3 km du bureau, fait que ça me prend 30-35 minutes le matin. Ah, tu sais, c'est faisable. Y a-tu quelque chose comme ça qui pourrait être faisable dans votre vie? Tu sais, je pensais que j'avais pas le temps jusqu'à ce que je commence à le faire. Finalement, les journées où je peux pas marcher, je suis dépressée parce que j'ai pas fait d'exercice dans ma journée. Ça fait que je pense que c'est obligatoire de le faire pour être capable de l'enseigner après ça, puis de le montrer, puis c'est ça. Oui,
pour c'est être ça. Bien. Comment on est plus crédible quand on fait pas un « qu'est-ce que je dis, pas ce que je fais? » Ça paraît toujours mieux.
Excuse-moi,
allez-y sur votre idée.
J'allais juste dire que, tu sais, des fois, c'est pas toujours évident de concilier, puis il va y avoir des bolus de semaines où, ben, on va manger sur le coin de la table, tu sais, on n'est pas plus parfaite que d'autres, là, tu sais, puis on fera pas du sport parce que, ben, il y a eu un rush, puis je pense que c'est correct, c'est juste de toujours y repenser, de retrouver notre équilibre, tu sais, mais, puis c'est correct, tu sais, au début, tu sais, vous voulez avoir du temps pour vous, mais vous voulez aussi avoir une belle carrière, tu sais, je pense que c'est normal de vouloir s'épanouir dans son travail, puis tout ça, puis c'est normal que des fois, il y a des rushs d'études où est-ce qu'il faut qu'on donne un gros bout pour pouvoir justement bien réussir puis accomplir nos rêves puis ce qu'on a envie de faire. Mais c'est ça, je pense qu'il faut jamais oublier de garder cet équilibre-là puis de prendre du temps pour soi, mais c'est pas toujours faisable. T'sais. C'est pas toujours parfait, mais faut pas oublier l'idée.
C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Tu sais, quand les enfants sont petits, ben c'est pas le temps le plus facile. Puis tu sais, en pleine résidence, ben on étudie beaucoup. On a peut-être moins envie de lire des romans policiers parce qu'on a jusque-là de lire, puis quand on peut fermer les livres, on n'a pas vraiment le goût de lire en plus. T'sais? Fait qu'il y a des choses qui viennent à chaque étape de la vie qui sont différentes, puis c'est correct. Mais il faut juste s'assurer de ne pas se faire happer par seulement le travail. Là.
Ça allait passer un peu du coq à l'âne. En fait, je me demandais si vous pouviez comparer un peu la construction de chaque programme pour que nos étudiants comprennent un peu mieux la différence. Le nombre d'années de résidence, les compétences avancées possibles, fellow si ça se fait aussi, juste pour qu'on ait une bonne base, un bon portrait.
Je peux commencer dans le fond avec la médecine de famille. Le programme de résidence dure 2 ans. Il y a des 3e années optionnelles, soit en médecine d'urgence, en soins palliatifs, en soins personnes âgées. Il y a des programmes dans certaines universités aussi de cliniciens érudits pour aller plus vers l'enseignement ou la recherche ou la gestion. Puis il y a aussi des programmes complémentaires de 3, 6 ou 9 mois pour faire plus d'obstétrique. Fait que, en gros, au bout de 2 ans, on peut faire à peu près tout, mais si on veut faire un peu plus de quelque chose d'autre, là, on peut faire ces 3e années-là. Peut-être que vous en avez entendu parler ou ça se parle depuis déjà plusieurs années, mais c'est possible qu'éventuellement la résidence passe à 3 ans en médecine de famille. Fait que je ne sais pas si ça sera pendant la cohorte des étudiants de maintenant ou d'ici ma retraite. Là, je ne sais pas quand est-ce que ça va se concrétiser, mais ça se discute activement. C'est sûr que c'est des enjeux logistiques pour, tu sais, on ne veut pas une cohorte à zéro finissant une année. Fait que probablement que ça va se faire de façon graduelle avec peut-être des projets pilotes ou des certaines sous-cohortes ou de gens volontaires ou tout ça. Mais bref, c'est sûr qu'en 2 ans, c'est très, très, très chargé. Là, il y a juste de plus en plus de connaissances à acquérir et de compétences. Et ça fait depuis 1988 que la résidence est de 2 ans. Alors, clairement, on a l'impression qu'il manque de temps pour tout faire. Fait qu'une troisième année, je pense, serait bienvenue. Puis comment s'est bâtie la résidence en MedFam, ça peut varier d'une université à l'autre, mais grosso modo, il y a du temps de suivi longitudinal au bureau. Fait que quand on est au bureau, on fait des demi-journées de bureau, des demi-journées de sans rendez-vous, un peu de chirurgie mineure, puis certaines, des fois, des expositions dans des cliniques, par exemple, d'ORL ou d'ortho, des demi-journées spécifiques là, en spécialité. Puis, à travers ça, est entrecoupé des blocs, par exemple, de 1 mois ou 2 mois en spécialité, dans différentes spécialités là, au cours des 2 années. Pendant les mois de spécialité, les résidents viennent à tous les mercredis matin pour faire du bureau, pour voir leurs patients pendant cette période-là aussi. Puis, ils ont des cours les mercredis après-midi. Fait que, grosso modo, sur une période de 2 ans, il y a la continuité des moments plus à l'UMF puis des moments plus à l'hôpital. Des gardes combinées urgences, des gardes d'hospite, des gardes obstétriques, tout ça se fait de façon variable là, d'un programme de résidence à l'autre, mais ça ressemble pas mal toujours à ça là, comme plan de résidence.
En médecine interne, c'est 5 ans. Dans le fond, comment ça se passe, c'est que les 3 premières années, c'est un tronc commun. Les 2 premières années, on parle de, on fait les stages dans toutes les sous-spécialités, là, fait qu'endocrino, gastro, pneumo, cardio. Et puis, on fait 1 à 2 mois dans toutes ces spécialités-là. À la fin de notre deuxième année, c'est là qu'on applique pour décider notre R4 puis notre R5, là, quelle spécialité qu'on va faire. Fait que c'est là qu'on choisit la médecine interne, bien évidemment. Puis, puis, dans le fond, le R3, c'est un peu là où est-ce qu'on devient un peu le résident senior, où est-ce qu'on fait un wrap-up là, de tout. On va faire beaucoup d'étages en médecine interne, des consultations à l'urgence en médecine interne, mais on va vraiment faire beaucoup de médecine interne au R3 pour un petit peu là, mettre tout ça ensemble. Puis, à cette troisième année-là, ils nous apprennent à chapeauter les plus jeunes résidents. Fait qu'il y a un senior puis un junior pendant les gardes. Après ça, pour le R, puis pendant notre tronc commun, là, on a des cours pratiquement toutes les semaines, autant des cours de soins intensifs que des cours de tronc commun là, qui vont toucher là, plein de sujets là, des spécialités. Après ça, le R4, R5. Le R4, on fait beaucoup de médecine interne, autant là, l'étage, les consultations à l'étage, les consultations à l'urgence, les soins intensifs, de la médecine interne en région. Notre horaire est pas mal bas. C'est pas mal eux qui dessinent notre horaire. Puis c'est plus au R5 où est-ce que le 3/4 de notre R5, c'est nous qui décident qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que dépendant si on va en région ou si on reste en périphérie, on va décider les stages qu'on veut prendre. Puis c'est à ce moment-là que si on décide d'aller en région puis qu'on veut faire un petit dada, comme dans mon cas, c'est de la bronchoscopie, mais on fait un 6 mois de ce R5-là où est-ce qu'on va aller se former soit dans notre hôpital où est-ce qu'on fait notre résidence ou dans un autre hôpital. Puis, on va comme devenir le mini-spécialiste de notre hôpital de région. Si on décide d'aller dans un centre tertiaire, après le R5, il faut faire un fellowship qui est entre 1 à 2 ans. Un fellowship là, en médecine interne, c'est ben, puis dans toutes les autres spécialités, c'est dans le fond une expertise qu'on s'en va acquérir souvent dans un autre pays. Là, fait que c'est le fun, ça te permet de voyager en même temps pendant une année. Et puis, c'est d'acquérir une expertise pour que quand tu vas revenir, tu vas pouvoir en faire bénéficier tes collègues. Donc, par exemple, tu peux aller faire une expertise pour les maladies thromboemboliques, puis quand tu reviens, ben, tu développes une clinique de maladies thromboemboliques. Fait que c'est une année ou 2 ans là, supplémentaires là, pour les centres tertiaires. Il faut presque toujours un fellowship quand on veut travailler en centre tertiaire. Puis en région, on n'a pas besoin là, de ce fellowship-là. Puis en région, on n'a pas besoin de se trouver un dada non plus. Là, tu pourrais juste être capable de tout faire sans avoir une technique en particulier. Moi, j'aimais ça l'idée d'avoir une technique parce que ça me permettait d'avoir un moment dans ma semaine où c'est un peu un no-brainer. Là. C'est plus un geste technique, là. Fait que ça, je trouvais ça bien fun pour ça. Fait que c'est pas mal ça.
Cool. Puis ben, je me demandais, mettons, là, vous nous avez présenté les résidences, mais mettons, votre expérience à vous au cours de ces résidences-là. Parce que moi, j'ai entendu dire que le 2 ans de médecine familiale, là, il était rough. Mais je sais pas si c'est vrai, mettons, si c'est aussi exigeant qu'on dit, mettons.
Bien, ça dépend toujours à quoi tu compares, je pense, puis à quoi tu t'attends. C'est sûr que c'est quand même exigeant, comme on dit, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à apprendre en très, très peu de temps. Fait que oui, il faut étudier. Mais des fois, on a des résidents qui switchent de d'autres programmes, par exemple, de programmes chirurgicaux. J'avais déjà eu un R4 d'orthopédie qui a décidé de switcher vers la médecine, puis il trouvait ça donc bien relax, la médecine, parce que il ne se levait plus à 5 heures du matin pour aller faire la tournée avant d'opérer puis avant de finir la clinique externe à 8 heures du soir. Fait que ça dépend toujours à quoi on se compare. Ça reste que c'est beaucoup de connaissances à acquérir, c'est beaucoup de lectures, c'est beaucoup de choses à faire, mais il y a des gardes, mettons, si les résidents font une garde de nuit, mais ils sont en lendemain de garde le lendemain, il y a des pré-gardes, post-gardes. Mais je vous dirais, tu sais, puis il y a des vacances. En fait, il y a comme chacun des stages doit être fait au maximum, minimalement 75 %. Fait qu'on peut prendre jusqu'à 25 % de vacances pendant notre résidence au total, là, si on inclut les congrès, les congés d'études, les fériés, les maladies et tout ça. C'est jusqu'à 25 % sur le 2 ans. Fait que, tu sais, ça peut avoir du bon de prendre certaines journées comme ça, comme buffer ou ressourcement, mais en même temps, si on n'est pas beaucoup présent dans notre milieu de stage, bien là, il faut qu'on essaye d'étudier encore plus pour toute l'exposition clinique à laquelle on est moins exposé. Fait que des fois, c'est quasiment plus stressant, tu sais, puis c'est un des arguments aussi qui pousse vers l'allongement de la résidence à une troisième année, c'est de dire c'est même plus 2 ans, là, c'est rendu en moyenne 1 an et demi de résidence si on enlève toutes les pré-gardes, post-gardes et compagnie. Fait que c'est ça. Donc oui, faut pas penser que c'est des vacances à être résident. Souvent, on a moins de contrôle un petit peu sur notre horaire que comparativement à quand on entre en pratique. Fait que c'est pas nous qui faisons les listes de garde, les horaires et tout ça. C'est souvent fait par le résident coordonnateur ou une secrétaire et tout ça. Fait que ça peut être un petit peu plus difficile d'avoir du contrôle sur ce qu'on fait. Mais tu sais, moi, pendant ma résidence, pour vous donner un exemple, j'étais en Estrie à Sherbrooke, puis t'sais, la majorité des fêtes de semaine, on allait faire de l'escalade dans le nord-est américain. Évidemment, c'était avant la COVID et les fermetures de frontières, mais t'sais, c'est tout à fait possible, encore là, comme on disait tantôt, par rapport à l'équilibre travail-famille. Si on se réserve du temps pour faire de l'activité physique, t'sais, j'ai des résidents qui sont dans le Rouge et Or qui continuent de s'entraîner une quinzaine, vingtaine d'heures par semaine. Est-ce que c'est facile? Non, mais est-ce qu'ils choisissent de le faire puis qu'ils réussissent? Oui, puis ils réussissent bien leur résidence et bien leur sport aussi. Fait que c'est ça. Donc, il n'y a rien de facile. Si on pense à entrer en résidence en médecine de famille parce que c'est relax, puis on va chiller, puis on ne va rien faire, bien, c'est faux. Fait qu'il faut s'attendre à étudier, puis à apprendre, puis à apprendre plein de choses. Mais la beauté et ce qui est insécurisant un peu, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ce n'est pas après 2 ans ou 3 ans de résidence qu'on a fini d'apprendre notre métier. On va l'apprendre pendant toute notre vie, puis on va continuer d'étudier. Puis de toute façon, les lignes directrices changent tout le temps. Il y a plein de molécules nouvelles qui arrive sur le marché. Fait que, tu sais, faut pas penser que tout doit être acquis. Puis, étant en première ligne, c'est correct qu'on demande de l'aide. C'est correct qu'on demande de l'aide à nos confrères spécialistes. Fait qu'on n'est jamais mal pris tout seul avec une question urgente qu'on ne peut pas régler. Puis que, mon Dieu, si j'avais étudié, j'aurais donc dû savoir ça. Là.
Et pour vous, docteur Soucy, comment s'est passée votre résidence?
Hey, c'est sûr que je suis d'accord avec Caroline. La résidence, c'est quand même un moment difficile à passer. Je peux pas vous le cacher. Puis je pense que toute résidence confondue, c'est difficile parce qu'on apprend beaucoup de choses en peu de temps. On étudie beaucoup. Moi, je dis souvent, j'ai eu l'impression que quand j'ai fini ma résidence de 5 ans, puis que j'ai commencé, je me souviens très bien, à tous les jours, je voyais des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Tu sais, je l'avais vu dans le textbook, mais je l'avais jamais vu dans ma résidence. Puis, on apprend à gérer ces inconforts-là parce je sais pas en médecine, mais en médecine interne, il y a tellement d'affaires qu'on sait pas. Moi, j'aime ça penser qu'en médecine interne, c'est qu'on est bon pour chercher. On est des bons détectives, tu sais. On est bon pour chercher, investiguer, puis ce qu'on sait pas, ben on va y réfléchir, puis le lendemain on va revenir, tu sais. Fait que c'est sûr que les résidences sont difficiles, puis quand on finit, ben on continue de lire puis d'apprendre, tu sais, c'est comme éternel, mais c'est, je pense, une des raisons pourquoi on va en médecine, c'est qu'on aime ça, ces défis-là, puis cet apprentissage-là en continu. Mais effectivement, ça peut être difficile, la résidence, là. Tu sais, il y a des moments où est-ce que on dort moins, on étudie beaucoup, puis on a des stretches à faire qui sont un peu plus difficiles. Fait que c'est ça, je pense pas qu'il y a de résidence plus facile qu'une autre, malheureusement, là. Je pense qu'il faut y aller en se disant que c'est le fun, la résidence, par contre. T'as comme plein de tâches, plein de nouvelles responsabilités, c'est vraiment excitant, là. Mais effectivement, c'est pas toujours facile.
C'est un défi, mais on va tous y arriver.
Ben oui! C'est super le fun, en plus, la résidence.
Dépendamment aussi où on en est dans notre vie, mais c'est sûr qu'une résidence sans enfant, c'est plus facile qu'une résidence avec enfant. Avec obligation familiale, en plus, tu ne peux pas juste te dévouer à tes études. Fait que c'est sûr que s'il y en a qui ont commencé leurs études en médecine plus tard ou qui sont rendus au stade d'avoir des enfants, bien, parfait, là, empêchez-vous pas de fonder des familles du tout. Mais c'est sûr que plus on a de responsabilités, plus on a d'obligations autres qu'étudier puis être attentif dans notre résidence, bien, ça peut être un défi de plus là, à soulever. Ceci dit, les résidentes que je vois qui ont des enfants, ils s'en sortent très bien aussi. Ils ont une autre expérience, ça leur amène une autre perspective aussi, des fois plus de maturité et tout ça, même ceux qui ont un autre background avant. Mais il faut être indulgent avec soi-même. Là. C'est pas, ça se peut que pendant la résidence, qu'on ne s'entraîne pas 3-4 fois par semaine, comme les recommandations canadiennes, puis qu'on fasse moins d'autres choses. Mais c'est ça, c'est juste, je pense, d'essayer d'être en équilibre et en harmonie dans qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais, j'ai-tu du plaisir dans ce que je fais là? J'aime-tu ça, faire ça? Oui, ben go all in, profitons-en, faisons-le, puis ça va être vite passé, puis à la fin de la résidence, ben c'est une autre sorte d'équilibre qui s'installe après aussi. Là.
Mais dans le fond, il reste ça.
Oui, bien, peut-être une dernière petite question, juste pour conclure. On a relevé quand même beaucoup de similarités puis quelques différences entre les deux pratiques, mais si vous aviez à pointer la grande différence entre les deux spécialités, qu'est-ce que vous en pensez?
En conclusion,
oui. Oui, c'est notre mot de la fin.
Je te laisse commencer, Caroline.
J'ai une bonne question. On passe le flambeau.
Moi, je dirais 0-100 ans, n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle raison de consultation, si plein de choses vous intéressent, dont des techniques, dont le suivi dans le temps, la médecine de famille est probablement la bonne chose pour vous.
Une bonne réponse.
Oui, c'était clair.
Oui, c'est une bonne différence.
Bien, moi, ça serait complètement l'opposé, dans le fond, pour la médecine interne. Si vous voulez vous occuper surtout de la médecine adulte avec plusieurs comorbidités, où est-ce qu'on veut adresser certains problèmes plus aigus, s'en occuper pour ensuite leur donner congé. Si vous voulez être plus un détective qui va investiguer, trouver la pathologie pour ensuite soit le traiter ou le référer à un sur-spécialiste pour le traitement, je vous dirais que c'est plus les différences pour la médecine interne.
Merci beaucoup pour vous être prêté au jeu. Là. C'est sûr, ça a été une conversation hyper intéressante. C'est spécial parce que vous avez très bien démystifié la différence entre les deux et les avantages, inconvénients peut-être, mais c'est drôle pour moi. Comme...
Tu restes confus.
Ouais, je reste confus. Puis je sais que chaque jour va être, même si comme je sais c'est quoi la différence entre les deux, je trouve qu'il y a quelque chose d'attrayant, mettons, dans les deux spécialités. Puis il y a quelque chose d'hyper valorisant, mettons, qui est, mettons, en tout cas, moi, ma personne, je pense que beaucoup de personnes pourraient vraiment y trouver leur compte. Mais merci d'être prêté au jeu. Puis je pense que ça a vraiment débroussaillé la différence majeure entre les deux spécialités.
Oui, puis gardez en tête que, comme Caroline l'a dit au début du podcast, vous pouvez toujours changer en milieu de parcours. Tu sais, si vous rentrez en médecine interne, finalement, vous réalisez que vous voulez aller en médecine femme ou vice-versa, on connaît plein de monde qui ont fait ça parce que c'est deux disciplines qui, même si on a voulu vous expliquer les différences, se ressemblent beaucoup. Hein? Fait que c'est correct d'aller dans une discipline puis finalement, deux ans plus tard, faire « Ah, ben c'est pas ça que je veux faire. » Puis c'est pas plus grave que d'autres. T'sais, c'est pas grave.
En effet, ça donne même des avantages. J'avais un confrère qui avait fait une année de médecine interne puis il était vraiment bon à l'hôpital. Puis lui, il détectait puis il suivait les hypomagnésémies qu'on n'avait même pas pensé de regarder. Puis tu sais, fait que ça reste que c'est pas comme des années perdues si vous décidez d'essayer un programme puis finalement d'aller dans l'autre parce que ça va avoir fait de vous des médecins avec encore plus de cordes à votre arc. Là. Fait qu'il n'y a pas de mauvais choix. Puis dans le fond, peu importe ce que vous choisissez, je pense qu'on peut être heureux dans plein de choses. Là. Je pense que j'aurais été une chirurgienne plastique bien heureuse aussi, mais finalement, j'ai choisi d'aller vers la MedFam, puis je suis super heureuse. T'sais. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, mais il faut juste trouver quelque chose qui nous ressemble puis qui nous rend heureux. Puis c'est ben, quand on est heureux, nos patients, ça avions du plaisir à venir nous voir. Puis c'est comme une roue qui tourne. Là, on engendre du bonheur autour de nous, puis on se sent mieux. Fait que...
Mais c'est ça, c'est le fun à entendre, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne se donne pas droit souvent. En tout cas, de mon côté, je suis très, très perfectionniste. Je ne me donne pas beaucoup le droit à l'erreur, entre guillemets. Donc, se dire, ben, c'est correct changer d'idée, c'est correct
apprendre de son parcours puis changer de direction. C'est un bon conseil à garder en tête.
Ben oui.
Pour les petits perfectionnistes en nous. Mais donc, je vous dis encore merci, puis je dis merci à ceux qui vont avoir pris le temps de nous écouter, qui ont écouté nos autres épisodes aussi, je l'espère, puis on est super contente d'avoir pu collaborer avec un autre de nos beaux comités à l'Université Laval, puis c'est pas la dernière fois qu'on fait ça, donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Balade Mini.